Lui qui se trouve dans le prophète Zacharie au chapitre 3, s'il vous plaît. Alors, c'est quelque chose que Dieu a montré à son prophète. Vous savez que les prophètes étaient appelés originellement les voyants, mais pas dans le même sens qu'aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, voyants, c'est ceux qui trafiquent avec les ténèbres. Alors, pourquoi on appelait primitivement les prophètes voyants? Bien parce que justement les prophètes voyaient ce que nous ne voyons pas. Et nous verrons que c'est ce qui vient dès le départ du chapitre 3, verset 1er, si vous y êtes, Zacharie chapitre 3, verset 1er, nous lisons « Il me fit voir ». Le prophète est donc bien un voyant. Zacharie voit ce que Dieu lui montre et que personne d'autre que lui ne voit, et notre prière, c'est que nous ayons plus de discernement, que Dieu nous montre, que Dieu nous permette de voir ce qui ne se voit pas, ce que les autres ne voient pas, de comprendre ce que l'homme sans Dieu ne peut concevoir. Mais peut-être, dans notre communion avec Dieu, dans la prière, nos yeux s'ouvriront, nous comprendrons, nous verrons. Et combien nous aimerions avoir cette communion que les prophètes avaient. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire que dans les temps de la fin, quand l'esprit va être répandu, les chrétiens pourront avoir une communion avec Dieu qui ressemblait à celle que les prophètes pouvaient avoir. Amen. Et nous aimerions vraiment, nous aussi, enfin voir ce que nous avons besoin de comprendre. Alors, chapitre 3, verset 1er, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Mais il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Le chapitre se divise en deux, jusqu'au verset 5, et on lira après, à partir du verset 6, c'est la deuxième partie. Mais voyons cette première partie où nous assistons à un procès. Un procès contre le souverain sacrificateur Josué. Personne ne le voyait, ne le concevait, mais Dieu le montre au prophète. Ce souverain sacrificateur est un tison arraché au feu. Pourquoi? Alors, il faut connaître l'histoire biblique et notamment le livre d'Esdras. C'est le livre d'Esdras qui nous raconte l'histoire des premiers retours des captifs. Vous le savez, ce sont les livres des rois et des chroniques qui nous le relatent. Israël, puis Juda, à environ 150 ans après Israël, avait subi le jugement de Dieu et Jérusalem, investi, avait même été envahi et quasiment détruit, et la population judéenne avait été déportée jusqu'en Babylone. Et le livre d'Esdras nous raconte comment Dieu, d'ailleurs prophétisé bien avant par le prophète Ésaïe, Dieu a suscité Cyrus, réveillant son esprit, pour permettre par un décret le retour des Juifs qui avaient été dispersés, exilés à cause du jugement de Dieu, mais pas à cause avant tout du jugement de Dieu, à cause de leur péché qui les avait amenés dans cette déportation. Et les premiers arrivants, les premiers retours, eh bien, c'est Josué et Zorobabel, justement. Les premiers juifs à être revenus, suite à cet édit de Cyrus, c'est Josué et Zorobabel. Zorobabel était le chef politique, le gouverneur. Josué était le chef religieux, le souverain sacrificateur. Alors, on comprend mieux pourquoi Dieu, dans cette vision, dit que Josué est un tison arraché au feu. Parce que tout avait brûlé. Et même littéralement, Jérusalem avait été incendiée. Le temple n'existait plus. Il avait été détruit et incendié. Et on comprend bien que cette nation juive qui avait subi le feu du jugement de Dieu, eh bien, les réchappés, ceux qui revenaient, étaient comme un tison arraché au feu. C'était une grâce que Josué soit revenu avec les premiers exilés dans le désir de rebâtir la maison de Dieu. C'était par grâce que Josué était revenu. Mais voilà, quelqu'un essaye de l'attaquer. J'ai lu que quand il est dit que Satan se tient à sa droite pour l'accuser, le verbe accuser peut se traduire aussi par le verbe attaquer. Satan est là pour l'attaquer. Voilà un homme de Dieu qui a subi le jugement de Dieu, qui revient. Mais l'adversaire ne veut pas s'en arrêter là, il veut l'attaquer. Notre adversaire à tous, c'est Satan. Satan, c'est l'accusateur, le condamnateur, le diviseur. C'est celui qui veut tous nous attaquer. Nous sommes l'objet de la grâce de Dieu. Vous et moi, si nous sommes là ce soir, parce que le Seigneur nous a arrachés quand même de notre misère. Nous revenons de loin. On peut dire de Josué qu'il revenait de loin, mais je pense que chacun d'entre nous, quand je me rappelle ce que j'étais avant ma conversion, comment j'étais complètement perdu, paumé, c'est la grâce de Dieu si nous sommes là. Amen. Mais l'adversaire ne va pas s'arrêter là pour chacun d'entre nous. Il voudra nous attaquer, il voudra nous accuser. Vous vous souvenez ce que Jésus a dit de l'adversaire ? Il veut détruire, il veut égorger, il veut tuer. Notre adversaire n'est pas tendre. C'est le meurtrier. Caïn, le premier meurtrier, il est-il écrit, était du malin. Il y a le meurtre dans la nature de notre adversaire commun. Il se tient à sa droite pour l'accuser parce qu'à l'époque, et oui, les accusateurs, ou ce qu'on dirait aujourd'hui dans un tribunal humain, les procureurs, se tenaient à la droite. Et là, l'ange de l'Éternel est là. Alors l'ange de l'Éternel, et puis verset 2, c'est l'Éternel. Vous avez remarqué ? C'est comme dans d'autres passages de l'Ancien Testament où l'ange de l'Éternel se confond avec l'Éternel. Un peu difficile à comprendre, me direz-vous. C'est assez simple en fait, ça veut dire simplement que cet ange de l'Éternel est vraiment le représentant de l'Éternel. Il est tellement le représentant de l'Éternel qu'il se confond avec l'Éternel et que quand il parle, le verset 2 nous dit « L'Éternel dit à Satan ». Alors que c'est l'ange de l'Éternel, mais c'est tout comme si c'était l'Éternel qui parle à Satan. Cet ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament n'est pas Jésus-Christ, mais préfiguré et annoncé Jésus-Christ, qui serait le véritable représentant de Dieu et celui qui serait Dieu lui-même. Et qui prendrait la victoire sur notre adversaire. Alléluia. Il est venu. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Josué était couvert de vêtements sales. Couvert de vêtements sales. Alors, dans un premier temps, on peut se dire, c'est que cet homme était mauvais, avait quelque chose à se reprocher. Il est couvert de vêtements sales. Mais dans un deuxième temps, plusieurs commentateurs, avec raison, signalent que si l'ange de l'Éternel représentait Dieu, le souverain sacrificateur était le représentant du peuple de Dieu. Et ce souverain sacrificateur tout sale représentait Israël tout sale. Cela dépassait sa personne.
Et quand Satan attaque Josué, le souverain sacrificateur, en réalité, il attaque le peuple qu'il représente. Il attaque tout Israël. Et il essaye de le mettre à bas. Heureusement, l'ange de l'Éternel le défend. Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. C'est écrit Jésus-Christ le juste. Parce que vous savez, si l'on regarde à nous, malheur à nous. Il n'y en a qu'un qui est juste. C'est Jésus-Christ. Celui qui nous défend, c'est lui qui est juste. Nous ne pouvons pas nous défendre nous-mêmes. Comment allons-nous nous défendre? Sur quelle base? Sur quoi pourrons-nous nous appuyer dans notre vie? Vous savez très bien, vous et moi, que nous bronchons tous les jours nous péchons. Et nous avons fait beaucoup plus de mal que de bien. C'était vrai avant notre conversion, mais au risque de vous étonner, c'est vrai aussi depuis notre conversion. Si nous sommes sauvés, c'est encore par la grâce de Dieu. Amen. Alors, le seul qui peut nous défendre, c'est le seul qui serait assez juste. C'est pour cela qu'il est écrit, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. Alors, couvert de vêtements sales, ôtez-lui ses vêtements. Donnez-lui des vêtements de fête. Est-ce que ça ne vous rappelle pas le fils prodigue? Tout de suite, immédiatement, le père qui lui donne un anneau, qui tue le veau gras, qui fait la fête pour lui. Dieu est bienveillant. Dieu pardonne généreusement. Amen. Nous avons parfois du mal, si rapidement, à changer les choses. Mais Dieu a une facilité à pardonner et à revêtir, à justifier. Il dit, voici, je t'enlève ton iniquité, je te revais d'habits de fête. Et ce qu'il change notamment, c'est la tiare, le bonnet, si l'on pourrait dire, parce que c'était là qu'était inscrit, vous le savez, dans le costume cérémoniel du souverain sacrificateur, il y avait une lame d'or sur son chapeau, son bonnet, sa tiare, et il était marqué dessus, sainteté à l'Éternel. Et là, dans l'état dans lequel il est, compliqué. Mais c'est l'ange de l'Éternel qui lui revêt de nouveaux habits et qui met sur sa tête un turban pur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous pouvons dire sainteté à l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons été sanctifiés par une seule offrande, une fois pour toutes, dit l'Épître aux Hébreux. Nous sommes des saints. D'après la Bible, nous sommes des saints. Vous direz, non, c'est pas possible. Alors c'est vrai qu'on a du mal à le croire, mais c'est ça l'évangile de grâce. Nous sommes en Jésus-Christ des saints et des fidèles. Le turban pur mis sur la tête du souverain sacrificateur, c'est la sanctification de tout le peuple de Dieu qu'il représente. L'ange de l'Éternel était là. Heureusement, Jésus-Christ est là. Amen. Alors, les leçons à retirer de cela, c'est que il nous faut... Alors, j'ai oublié de vous dire, quel était le but de l'adversaire dans cette attaque? Ils étaient revenus, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, ils étaient revenus de Babylone pour reconstruire le temple de Jérusalem. D'accord? Seulement, ce temple, il fallait après qu'il fonctionne. Et pour qu'il fonctionne, il fallait qu'il y ait des sacrificateurs qui officient, qui sacrifient des animaux, qui les présentent. Il fallait des hommes qui soient réhabilités. En fait, quand Satan a attaqué Josué, le souverain sacrificateur, c'était pour empêcher que la maison de Dieu, même si elle était reconstruite, refonctionne, redémarre. Le but de l'adversaire, c'est que jamais l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu, se relève. À la limite, qu'elle se relève dans ses briques, dans son bâtiment, mais jamais se relever spirituellement. Il fallait qu'il empêche le ministère sacerdotal. C'est le but de l'adversaire. C'est d'empêcher que Dieu soit glorifié dans l'Église par un culte qui fonctionne. Le but de l'ennemi dans toutes ses attaques individuellement pour nous tous. C'est pas seulement qu'il veut nous faire du mal à nous. mais il veut surtout faire du mal à l'œuvre de Dieu. Il veut surtout empêcher l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. Heureusement, c'est l'ange de l'Éternel qui a le dernier mot, et je crois c'est Jésus-Christ qui bâtira son Église. Amen. Alors la deuxième partie du chapitre, je vous propose de la lire avec moi à partir du verset 6. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Donc ça, juger la maison, garder les parvis, c'était le rôle du souverain sacrificateur. Ça veut dire qu'il est rétabli. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons, donc toute la classe sacerdotale, les sacrificateurs qui sont assis devant toi en quelque sorte, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Donc Josué et les sacrificateurs sont des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Amen. Alors la première partie, c'est ce que le prophète voit et raconte. Et ce que je disais dans mon introduction prend plus de sens une fois qu'on a médité le texte, que le Seigneur nous donne de voir qu'il y a un adversaire, un défenseur et un sacerdoce à vivre ensemble. Parce que maintenant, c'est nous qui sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Alléluia. C'est ce que le prophète voit, et que le Seigneur puisse par son esprit nous donner de voir son œuvre, de voir ces choses. Et dans un deuxième temps, c'est ce que l'ange de l'Éternel déclare à Josué. Et il dit à Josué, je te rétablis si tu marches dans mes voies. Alors c'est toujours cet ordre-là, vous savez, on ne doit pas d'abord obéir pour être rétabli. On est d'abord rétabli par la grâce et après alors on est capable d'obéir. Parce que quand on est sous l'attaque et sous l'accusation, quand on est démoli par la boue qui est sur nous, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas avancer. C'est toujours le même ordre, le Seigneur d'abord nous justifie et ensuite nous pouvons lui obéir. Amen. Ne cherchons pas à lui plaire en dehors de sa justice. Mais c'est quand il nous rétablit que nous avons la force d'obéir et d'être rétablis dans notre vocation. Et ces présages, c'est quoi ? Josué et les sacrificateurs qui revenaient de loin après un jugement de Dieu sur Jérusalem, eh bien c'est Jésus-Christ et l'Église, royaume de sacrificateurs. Ce sont des signes, c'est un présage qui s'est passé pour nous parler du germe Jésus-Christ, qui viendrait, et en un seul jour, sur la croix de Golgotha, il effacerait tous nos péchés. Alléluia. En un seul jour, il a purifié tout le pays. Il a enlevé l'iniquité de tout le pays. La conclusion est belle, c'est la réconciliation. Le verset 10, c'est « Vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier ». La conclusion, c'est la réconciliation. Je pense qu'on ne peut pas être réconcilié avec Dieu sans être réconcilié les uns avec les autres. Quelle belle conclusion. La conséquence de l'Évangile, c'est la paix entre les hommes. Amen. La conséquence de l'Évangile, c'est l'invitation les uns les autres. Alors vous vous rappelez qu'il y a eu un culte où j'ai prêché sur cette expression du Nouveau Testament, les uns les autres. Et si elle s'y trouve, vous vous inviterez les uns les autres. Alors, tout de suite, ça peut nous faire rappeler, exhortez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, etc., etc., etc. Dieu soit béni pour ce signe, ces présages. Nous avons un adversaire, il faut le voir, mais nous avons un défenseur, plus que l'ange de l'Éternel, le Fils de Dieu lui-même. Alléluia. Je termine avec Hébreux 2, vous voulez bien? Courtement, on va lire ce passage sur ce qu'est notre souverain sacrificateur, puisque Josué ne présage que le véritable souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, et les chrétiens sont la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Voilà le souverain sacrificateur que nous avons, miséricordieux et fidèle. Alléluia. C'est-à-dire que, vous savez, Josué, avec tous ses vêtements sales, il ne pouvait pas servir Dieu. Et le Seigneur lui a fait grâce, grâce à cette vision qu'a eue le prophète Zacharie. Mais je crois que ce souverain sacrificateur, après, devait avoir beaucoup de compréhension. Parce que ses vêtements sales, il les avait portés, il savait ce que c'était. Bien, Jésus nous comprend. Il s'est fait homme pour connaître ce que nous sommes. Bien sûr, accepter le péché pour lui. Mais il connaît nos combats, il connaît nos difficultés. Et il n'est pas un souverain sacrificateur lointain et dur. La dureté et l'exigence ne fait pas partie de l'évangile de la grâce. Nous avons un souverain sacrificateur compatissant, miséricordieux. Alléluia. Alors je crois que quel que soit notre état, nous avons bien souvent tort de ne pas oser lever les yeux, de ne pas oser prier, de ne pas oser nous approcher de lui, parce que c'est quand on est sale qu'il nous lave, c'est quand on est malade qu'il nous guérit. C'est quand on ne va pas bien qu'il nous relève. Alléluia. Alors, ne faisons pas le jeu de l'adversaire qui accuse, mais soyons comme notre Sauveur qui défend. Son nom soit béni.